VOA Afrique.
Le monde aujourd'hui. À Washington.
Bonjour, le monde aujourd'hui, édition du mardi 17 avril 2018. En direct de Washington, Idrissa Seydoudia
et Anne Albertson.
Nous commençons par les titres.
La France se dit victime d'instrumentalisation en République centrafricaine.
Prise de fonction hier en Guinée-Bissau du nouveau Premier ministre de consensus, Aristides Gomes.
Au Kenya, démission hier de 3 membres de la commission électorale.
En Syrie, les experts de l'Organisation internationale pour l'interdiction des armes chimiques n'ont pas pu entrer hier à Douma.
Et ne manquez pas notre page sport ainsi que la Minute Éco.
Pour l'instant, le journal.
La France a dénoncé lundi dans un communiqué l'instrumentalisation dont elle fait l'objet, dit-elle, en Centrafrique, tandis que des groupes armés du quartier musulman de Bangui, théâtre de violence depuis début avril, se sont réclamés du soutien de Paris. Les précisions de Jean-Roger Bion.
Tout est parti d'une distribution de tracts dans le quartier musulman de Bangui, le PK5, où une milice armée indique avoir le soutien de la France. L'ambassade de France a aussitôt dénoncé ce qu'elle considère comme des tentatives d'instrumentalisation. Autrement dit, la France se refuse à être présentée comme un soutien de groupes armés. La mise au point intervient après les violences meurtrières qui ont secoué Bangui après le début, le 8 avril, d'une opération militaire des casques bleus et des forces armées centrafricaines contre les groupes armés du quartier PK5. Les combats qui ont opposé les militaires aux milices ont fait au moins 25 morts, dont un casque bleu et une centaine de blessés. Depuis, des drapeaux français ont été hissés dans le quartier PK5, en plus des tracts distribués. La présence de drapeaux français relève d'une grossière manipulation visant à faire croire à une divergence entre les objectifs de la France et ceux des autorités centrafricaines et de la MINUSCA, dit le communiqué de l'ambassade de France, qui estime que ces drapeaux contribuent à entretenir un climat de confusion sur le rôle de la France en Centrafrique.
Au Niger, des proches de 3 militants de la société civile ont annoncé hier l'arrestation dimanche de ces activistes après des heurts à Niamey entre la police et des manifestants qui ont bravé l'interdiction d'une marche contre la loi de finances. Il s'agit d'Ibrahim Diori, membre d'Alternative Espace Citoyen, de Michael Zodi, coordonnateur pour le Niger de la campagne Tournons la page, et d'Abdourahmane Idé Hassan, dirigeant d'une association de jeunesse. Des télévisions locales et une source sécuritaire ont de leur côté confirmé ces 3 arrestations.
Un nouveau Premier ministre de consensus, Aristides Gomes, a pris ses fonctions hier en Guinée-Bissau, avec pour tâche principale de conduire le pays jusqu'aux législatives de novembre et de mettre fin à une crise politique de plus de 2 ans. Des détails avec Jacques Aristide.
Quelques heures après avoir été nommé par le président bissau-guinéen José Mario Vaz, Gomes a prêté serment au palais présidentiel. À 63 ans, il succède à Augusto Antonio Arthur da Silva, nommé fin janvier, qui comme ses prédécesseurs depuis la mi-2015, n'avait pas réussi à former de gouvernement, faute d'avoir obtenu le soutien des partis signataires d'un accord de sortie de crise d'octobre 2016. À la grande inquiétude de l'ONU, la Guinée-Bissau traverse des turbulences depuis la destitution en août 2015, par le président Vaz, de son premier ministre Domingos Simoes Pereira, chef du Parti africain pour l'indépendance de la Guinée et du Cap-Vert. Les 2 hommes, membres du même parti, ne s'entendaient plus sur la direction du pays, notamment au sujet de la corruption. Pereira était présent à la cérémonie d'investiture. Pour le nouveau chef du gouvernement, la réussite de sa mission dépendra en premier lieu de la volonté et de la collaboration du président et de toute la classe politique.
Au Nigeria, la police a annoncé hier qu'au moins 4 policiers ont été tués dimanche soir dans une attaque menée par des hommes armés dans l'état central de Benue, où un conflit entre agriculteurs et nomades a fait des centaines de morts depuis janvier. Les états du centre du Nigeria sont régulièrement touchés par ces affrontements meurtriers pour l'accès à la terre et à l'eau entre agriculteurs sédentaires et éleveurs nomades accusés de saccager les fermes agricoles avec leurs troupeaux.
Au Kenya, 3 membres de la commission électorale ont démissionné hier, accentuant le chaos qui règne au sein de cette commission depuis les ratés de la présidentielle de l'année dernière. Le point avec Lionel Gaïma.
Avec ses départs, la commission ne compte plus que deux membres et son président. La semaine dernière, son directeur général a été placé en congé administratif en attendant un audit sur les questions de passation de marché. Selon la vice-présidente Consolata Nkatamaina et la commissaire Margaret Mwachanya, les événements liés à la suspension du directeur général ont gravement entamé le peu de confiance publique dont jouissait encore la commission. Le président de la commission électorale, Wafula Chebutaki, assure néanmoins que l'institution fonctionne malgré le départ de plusieurs de ses membres. Pour sa part, le leader de la majorité au Sénat, Kipchumba Murkomen, a dit que Chebukati et les autres commissaires restants devraient démissionner dans la semaine. Sinon, une enquête judiciaire sera ouverte contre eux, a-t-il averti. Les élections repoussées de l'année passée ont fait ressurgir des peurs d'un retour de la violence politique au Kenya. Les affrontements en rapport avec les élections de 2007 avaient fait quelques 1200 morts.
Au Maroc, le leader du mouvement de protestation qui a agité l'an dernier la ville septentrionale d'Al-Hasheima dans le Rif a contesté hier au cours d'une audience la véracité du procès verbal dressé par la police judiciaire. Nasser Zefzafi, 39 ans, est emprisonné depuis mai dernier après avoir interrompu le prêche d'un imam hostile au mouvement social qui secouait alors une partie du nord du pays. Il est l'un des derniers des 54 militants ou sympathisants du mouvement social appelés à la barre depuis mi-septembre devant la chambre criminelle près la cour d'appel de Casablanca.
En Libye, le nombre de migrants détenus par les autorités a enregistré une nette baisse sur un an, passant de plus de 27 000 en mai 2017 à 5 200 actuellement. Et le pays ne compte plus que 32 centres de détention contre 53 en mai 2017. C'est ce qu'a annoncé lundi à l'AFP un haut responsable libyen. Cette baisse s'explique par l'accélération du rythme de rapatriement des migrants, mené notamment par l'Organisation internationale pour les migrations. Plusieurs pays africains ont aussi rapatrié des centaines de leurs ressortissants ces derniers mois, suite à un scandale né après la diffusion d'un reportage de CNN sur un trafic d'esclaves.
Vous êtes à l'écoute de VOA Afrique.
En Syrie, les experts de l'Organisation internationale pour l'interdiction des armes chimiques n'avaient toujours pas pu entrer hier dans la ville de Douma. Ils veulent y enquêter sur l'attaque au gaz présumé du 7 avril. Le point avec Yacouba Ouidraogo.
Le directeur de l'OIAC, Ahmed Unzuku, a annoncé que la mission de l'organisation n'a pas encore été déployée à Douma. La Syrie et la Russie invoquent des problèmes de sécurité. Le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov, a nié toute mauvaise volonté de la part de Moscou. Les autorités russes ont rappelé qu'elles étaient, dès le début, pour une enquête impartiale. L'ambassade de Russie auprès de l'OIAC a assuré que l'arrivée des experts à Douma était prévue pour demain mercredi. La tension internationale ne faiblit pas après les frappes de représailles menées samedi par les États-Unis, la France et le Royaume-Uni contre des sites du régime de Bachar al-Assad. Ces frappes font suite à l'attaque chimique présumée du 7 avril dans la ville alors rebelle de Douma. Elles sont intervenues malgré la présence en Syrie des enquêteurs de l'OIAC qui ont débuté dimanche leur mission. Les derniers combattants rebelles de Douma ont quitté samedi la ville après un accord de reddition signé le 9 avril, soit deux jours après l'attaque chimique présumée. Le régime syrien nie que des armes chimiques ont été employées dans le drame de Douma qui a fait au moins 40 morts et des centaines de blessés selon les secouristes.
Amnesty International a fustigé mardi les punitions collectives des femmes et des enfants ayant un lien même distant avec des hommes liés au groupe État islamique et l'exploitation sexuelle de femmes dans les camps où elles sont confinées en Irak. L'ONG a déploré dans un rapport que des milliers de femmes et d'enfants soupçonnés de lien avec le groupe djihadiste y soient condamnés pour des crimes qu'ils n'ont pas commis.
En Turquie, ouverture hier du procès d'un pasteur américain détenu depuis 18 mois et accusé de terrorisme et d'espionnage, accusation qu'il rejette. Les procureurs ont requis une peine de 35 ans de prison dans ce cas qui empoisonne les relations entre Ankara et Washington. Selon la presse locale, Andrew Brunson a fondu en larmes quand il a appris qu'il allait devoir rester en détention, le tribunal jugeant qu'il y a risque de fuite. Les États-Unis ont réclamé à plusieurs reprises sa libération et le président américain Donald Trump a demandé le prompt retour du pasteur. Les autorités turques le lient au réseau du prédicateur Fethullah Gülen, qui vit en exil aux États-Unis et qu'Ankara accuse d'être le cerveau du putsch manqué de juillet 2016 contre le président Recep Tayyip Erdogan.
Fin de ce journal sur VOA Afrique, vous écoutez Le Monde aujourd'hui.
La Minute Éco, Eric Manirakiza.
L'Afrique reste en tête des priorités de l'Agence française de développement ADF. Elle enregistre 50% des financements en 2017, soit plus de 5 milliards d'euros. L'enveloppe est en hausse de 15% par rapport à 2016. Au total, l'ADF a financé 752 projets pour plus de 10 milliards d'euros dans les pays en voie de développement durant la même période. L'Asie a eu 20%, le Proche et Moyen-Orient 16%, l'Amérique latine et la Caraïbe, 14%. Les territoires français d'outre-mer ont bénéficié de plus d'un milliard d'euros. Des projets soutenus ont permis l'accès à l'eau potable pérenne pour 822 000 personnes, l'accès à l'électricité pour 365 000 personnes, la protection ou la restauration de 16 millions d'hectares d'espaces naturels et la scolarisation de 396 000 filles. Le Centre régional d'assistance technique pour l'Afrique centrale, Afritac Centre, appuie les hauts fonctionnaires du budget de l'Afrique centrale. Ils sont réunis depuis hier à Libreville pour plancher sur le renforcement des capacités de leurs administrations budgétaires. La rencontre prendra fin le 19 avril. La Banque mondiale a octroyé à l'Égypte 500 millions de dollars pour améliorer l'enseignement et l'apprentissage dans les écoles publiques à travers l'adoption des technologies numériques. Les réformes devraient permettre l'accès à une éducation de qualité à la maternelle pour environ 500 000 enfants. Le projet contribuera également à la formation de 500 000 enseignants et responsables de l'éducation.
À présent, les sports avec Nicolas Pinault. Nicolas, bonjour.
Bonjour Drissa, bonjour à tous.
Tour de cadrage, retour de la Coupe CAF.
Et oui, effectivement, 4 matchs au programme. Ce mardi notamment, le CF Mounana en déplacement en Égypte face à El Masri. Après le match nul, un but partout au match aller. L'USM Alger qui accueille le Plateau United du Nigeria avec un but de retard après la défaite au match aller de Buzyn. La SEC Mimosa en déplacement en Algérie chez Belouizdad. La SEC qui l'avait emporté à Abidjan, un but à zéro. Enfin, déplacement à Pointe-Noire pour l'AS Vita Club face à La Mancha, le voisin congolais. L'AS Vita Club l'avait emporté 1-0 à Kinshasa.
Visite d'inspection de la FIFA au Maroc.
Un groupe d'évaluation de la FIFA a commencé hier sa première visite d'inspection au Maroc. Pays candidat, vous le savez, à l'organisation du Mondial 2026 de football face à la triple candidature conjointe États-Unis, Mexique, Canada. La délégation de la FIFA doit notamment inspecter dès aujourd'hui le grand stade de Marrakech inauguré en 2011. La mission se poursuivra à Agadir, à Tanger et à Casablanca. La FIFA qui doit publier ses résultats. Résultat à l'issue de cette tournée d'évaluation de 3 jours. On rappelle, Idrissa, qu'un groupe de travail de la FIFA avait effectué une visite similaire la semaine dernière à Mexico, Atlanta, New York et Toronto. Enfin, les 207 fédérations membres de la FIFA désigneront l'organisateur du Mondial 2026. La réponse pour le Maroc, ce sera le 13 juin à Moscou. La veille de l'ouverture de la Coupe du Monde 2018 en Russie.
En Italie, l'Inter Milan espère se relancer.
L'Inter Milan, qui marque le pas en Serie A, doit l'emporter ce mardi à San Siro en ouverture de la 33e journée face à Cagliari. Et ce, pour ne pas décrocher, s'éloigner du top 4, synonyme de qualification pour la phase de poule en Ligue des Champions. On suivra bien évidemment en Italie le choc samedi entre le leader, la Juventus Turin, et son dauphin Naples, qui pour le moment est à 6 points de la Juventus.
Performance américaine au marathon de Boston.
Desiree Linden est devenue la première américaine depuis 1985 à remporter le célèbre marathon de Boston. Le temps 2h39 minutes 54 secondes. Elle a devancé l'éthiopienne Mamitou Daska et la kenyane Gladys Chesir dans des conditions météo difficiles, la pluie et le vent. Chez les hommes, c'est le japonais Yuki Kawashi qui a remporté la course en 2h15 minutes et 58 secondes devant le tenant du titre et champion du monde kenyan Geoffrey Kiri, deuxième à 2 minutes et 25 secondes du leader. Allez Idrissa, avec vous, les playoffs NBA, le championnat de basket nord-américain.
Alors, les résultats du premier tour de ces playoffs NBA avec le match après le match numéro 2, Conférence Est, les Miami Heat ont battu les Philadelphia Sixers 113-103. Les deux équipes sont à égalité, une victoire partout. Conférence Ouest, les San Antonio Spurs ont succombé aux Golden State Warriors. Golden State mène la série 2-0.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
De nouveau avec vous, Idrissa Sidoudia. Nous passons maintenant à nos dossiers du jour. Au Tchad, les députés de l'opposition refusent de prendre part aux travaux de l'Assemblée nationale sur la nouvelle constitution. Ils dénoncent son adoption, l'adoption de ce texte par voie parlementaire plutôt que par voie référendaire. Eric Maniraktiza a joint à N'Djamena, l'opposant historique et président du parti Fédération et Action pour la République, le député Ngarlej Yorongar.
Seul le peuple peut trancher cette affaire-là, parce que pour nous, l'opposition, c'est une république bananière. C'est même une république des hypnos. Donc, on ne peut pas accepter que le gouvernement porte le coup à la dite constitution. C'est la raison pour laquelle nous avons demandé à ce que la question soit soumise au référendum. Et nous sommes sûrs de prendre le dessus au cas où Déby s'hasarderait à organiser le référendum. C'est la raison aussi pour laquelle il veut forcer la main à l'Assemblée nationale d'adopter cette constitution.
Et que prévoit la loi en matière de modification de la Constitution?
La loi dit que la Constitution ne peut être modifiée que par le référendum. Elle a été adoptée par référendum, elle ne peut être modifiée que par référendum. Il est hors de question de la modifier par l'Assemblée nationale.
Et que comptez-vous faire?
Nous ne sommes pas dupes. Déby est habitué au forcing. Nous en sommes conscients. Nous prenons à témoin l'opinion nationale et internationale. Nous en appelons aux partenaires économiques, financiers, politiques et stratégiques pour faire pression sur Idriss Déby afin qu'il cède au moins une fois.
Et s'il ne cède pas?
S'il ne cède pas, nous aviserons.
Monsieur Yorongar, qu'est-ce que vous contestez dans ce projet de la nouvelle constitution?
Tout. Parce que Déby a supprimé la primature pour régler ses comptes avec son premier ministre actuel qui refuse de démissionner. La constitution tchadienne dit tant que le premier ministre ne donne pas sa démission, le président de la République ne peut pas l'obliger à le faire. Monsieur Payimi résiste. Et il faut lui régler le compte par ce machin qu'on appelle le forum inclusif. On modifie aussi le nombre de mandats de députés. Déby a pris la décision de limiter les mandats de députés à 2 mandats, juste pour régler mon compte à moi qui vous parle. Parce que depuis 1996, je me fais réélire plusieurs fois avec un score écrasant de plus de 80%. Troisièmement, il taille à sa mesure les régions. Alors, tout ça là, c'est pas de notre goût.
C'était le député Ngarlej Yorongar, président du parti Fédération et Action pour la République au Tchad.
Votre rendez-vous quotidien, 24h/24, sur VOA Afrique, N'Djamena, au Tchad, sur 93.1 FM.
Au Burkina Faso, des tirs à balles réelles ont retenti hier au camp militaire de Kamboensin à Ouagadougou, mais rien d'inquiétant à ce sujet. Ils entrent en effet dans le cadre de l'exercice Flintlock 2018, un exercice militaire organisé par le commandement américain pour l'Afrique et ses partenaires européens pour mieux préparer les forces africaines à faire face au terrorisme. Reportage du correspondant de VOA Afrique à Ouagadougou, Lamine Traoré.
Les forces spéciales maliennes en pleine démonstration. Nous sommes sur le champ de tir d'un camp militaire de Ouagadougou. Des soldats maliens s'adonnent à des exercices de tir réels à la faveur de Flintlock 2018. Des manœuvres militaires pour mettre à niveau des armées africaines pour contrer le terrorisme. Ils vont tirer pendant au moins une heure. Le capitaine Aziz Ouidraogo du service de la communication des armées du Burkina Faso explique ce qui vient de se passer.
La première démonstration, c'est une réaction à l'embuscade. Et ils ont été pris à partie sur la droite. C'est ce qui a été simulé par les grenades qu'ils ont jetées, la détonation. Donc une fois qu'ils sont pris à partie, ils se retournent, ils se mettent en formation. La particularité de cet assaut-là, c'est qu'on fait un déluge de feu sur l'ennemi. La deuxième démonstration, c'était une démonstration de précision et de confiance.
Des forces spéciales américaines sont les instructeurs de ces militaires maliens. Le général Marcus Mix, commandant des opérations spéciales des États-Unis pour l'Afrique, parle de l'exercice Flintlock.
L'exercice Flintlock est un exercice qui comprend beaucoup d'aspects différents. L'aspect militaire fait partie justement de la réponse. Il y a un aspect civilo-militaire, de la société civile, du respect des droits de l'homme. L'exercice militaire n'est qu'une seule partie d'une stratégie de sécurité qui est beaucoup plus ample et qui justement cet exercice tente de répondre.
Du côté du Burkina Faso, cette initiative Flintlock permet de mieux préparer les forces africaines dans la lutte contre le terrorisme. Le général Oumarou Sadou, chef d'état-major des armées du Burkina Faso.
C'est une initiative américaine qui accompagne nos armées à faire face à la menace. En termes de formation, en termes d'entraînement, aussi en termes aussi de travail en multinational. Flintlock est un exercice auquel nous sommes déjà habitués parce que nous avons eu l'honneur de l'accueillir en 2010. On ne pourra jamais vaincre cette menace-là tant qu'on n'est pas avec nos populations. Tant que certaines facilités dont les populations ont besoin, on n'arrive pas à les réaliser. Mais en amont, il y a la réponse militaire.
Environ 1900 participants de près de 20 pays africains et occidentaux participent à Flintlock 2018. Les apprenants ont encore une semaine pour parfaire et maîtriser certaines techniques de combat. Lamine Traoré, Ouagadougou, VOA Afrique.
Vous êtes bien sur VOA Afrique, 24 heures sur 24 au Burkina Faso, à Ouagadougou sur le 102.4 FM.
Au Mali, les violences sexuelles en milieu hospitalier et les dépravations des mœurs sur les réseaux sociaux étaient au centre d'une récente causerie débat impliquant plusieurs femmes et filles, mais aussi des parents. Cette causerie a été organisée par le collectif Les Amazones dans le cadre d'une campagne de sensibilisation face à ces deux phénomènes sociaux. Le point avec Kassim Traoré.
À la descente du pont des martyrs, on voyait une convergence des femmes vers la pyramide du souvenir. Ce lieu des débats au Mali ouvre ses portes aux femmes du collectif Les Amazones pour parler de violences sexuelles en milieu hospitalier et les dépravations des mœurs sur les réseaux sociaux. Tchakité Khadija Fofana, présidente du collectif Les Amazones.
Nous sommes tous interpellés par la dégradation de la situation, la recrudescence des actes de dépravation qui ont eu lieu à longueur de journée sur les réseaux sociaux. Malheureusement, et donc nous appelons les gens à chaque fois pour essayer de les sensibiliser avant de dénoncer les choses. Je pense que les témoignages pointus, réactualisés d'aujourd'hui sont beaucoup plus édifiants.
Très édifiants, surtout pour les femmes qui ont subi des harcèlements sexuels dans les milieux hospitaliers. Certaines ont brisé le silence pour prendre la parole. Bathily Sitan Koulibaly, participante.
Moi, je veux dire aux médecins vraiment d'améliorer un peu leur accueil. Vraiment, on a vu aujourd'hui dans les hôpitaux, c'est grave. Les malades viennent, si tu n'as pas d'argent, on te néglige. Donc, on veut que la négligence la cesse. On cesse vraiment. On est en train de sensibiliser au fur et à mesure. Peut-être un jour, ça va cesser.
Les réseaux sociaux au Mali, c'est le mauvais usage des jeunes qui a été décrié par les femmes. Diarra Fatoumata Touré, enseignante.
Pour nous, les réseaux sociaux, c'est vraiment diffuser tout et n'importe quoi. Vous pensez que c'est juste à l'ami que vous l'avez envoyé? Cet ami va forcément garder l'image en toute discrétion. Non, c'est que votre vie privée est étalée dans le monde entier. On pose des actes et on oublie les conséquences. Eux, ils pensent qu'ils se mettent en valeur comme ça, que ce soit fille ou garçon. En fait, finalement, ça devient autre chose.
Assise au fond de la salle, une jeune dame a hésité plusieurs fois avant de prendre la parole. Fatma Tasso évoque le cas des femmes enceintes dans les hôpitaux.
Les femmes en phase d'accoucher ont des difficultés avec le professionnel sanitaire des hôpitaux parce qu'elles ne sont pas prises en compte. Elles sont négligées, elles sont humiliées, elles sont bafouées dans leur dignité. On a besoin de ce genre de thématique, faire une sensibilisation concrète, amener les uns et les autres à raisonner et vraiment à se respecter.
Le collectif Les Amazones veut faire bon usage des synthèses de cette causerie en mettant l'accent sur la sensibilisation.
La dépravation de mœurs, vous le savez, c'est une réalité aujourd'hui. Nous voyons à longueur de journée des cas de viol qui sont sur les réseaux sociaux. Donc, les gens doivent savoir que ça, c'est quelque chose de très grave parce que les parents, aussi bien que l'État, doivent essayer de se donner la main pour un peu, je ne dirais pas freiner, mais pour essayer de sensibiliser les jeunes parce que ça n'honore pas du tout l'image de notre pays.
Une vaste campagne de sensibilisation sera initiée par les Amazones dans les espaces scolaires pour mieux sensibiliser les enfants et les jeunes afin qu'ils puissent faire un bon usage des réseaux sociaux. Bamako, Kassim Traoré, VOA Afrique.
Restez branchés 24h/24 sur VOA Afrique à Bamako, au Mali, sur 102.0 FM.
La tension internationale ne faiblit pas après les frappes de représailles menées samedi dernier par les États-Unis, le Royaume-Uni et la France contre des sites militaires du régime de Bachar al-Assad en Syrie. Ces bombardements font suite à l'attaque chimique présumée du 7 avril dans la ville de Douma, dans la Ghouta orientale, considérée comme le dernier fief des rebelles. Plusieurs gouvernements européens sont contrariés car ils craignent la réaction du président russe Vladimir Poutine, soutien indéfectible du régime de Damas. Mais Moscou a jusqu'ici plutôt surpris par sa retenue. Comme l'explique à Jacques Aristide, Jean Marcou, expert en politique étrangère à Sciences Po Grenoble.
J'ai été plutôt frappé par la modération finalement des réactions de la Russie parce qu'il y avait eu effectivement avant les frappes un certain nombre de déclarations ou d'actes qui étaient beaucoup plus agressifs. Je pense en particulier au survol d'une frégate française, l'Aquitaine, par un avion russe armé. Je pense également aux déclarations qui disaient qu'effectivement les frappes allaient créer un conflit difficile à surmonter entre la Russie et les Occidentaux, mais on n'a pas cette impression, on a même plutôt l'impression que finalement ce retour des Occidentaux dans le règlement de la crise syrienne va peut-être permettre une certaine avancée sur les négociations et sur un certain nombre de dossiers.
Vous pensez donc que les Russes et les Turcs vont venir à la table à des négociations ?
Je ne sais pas si les Russes et les Turcs vont venir à la table des négociations, mais je pense que les frappes, d'une certaine manière, ont éloigné un petit peu les Turcs des Russes, puisque les Turcs ont été, d'une certaine manière, obligés d'approuver, en réalité, ces frappes. Et donc, ça crée une situation qui est un petit peu nouvelle.
Les bombardements ordonnés par le président Trump l'an dernier après l'attaque chimique de Khan Sheikhoun n'ont visiblement pas dissuadé le régime Assad. D'après vous, quel est l'effet des dernières frappes ?
Je pense que derrière ces frappes, il y a quand même tout un problème qui est celui de savoir quel est le rôle effectivement que joue la Russie. Parce qu'il y a eu plusieurs fois des frappes, alors même que la Russie est à l'origine en charge du respect par le régime de Bachar al-Assad des règles internationales et en particulier du non-usage des armes chimiques. Or, il y a eu depuis 2013, la date où la Russie est un peu entrée diplomatiquement dans le conflit syrien, il y a eu plusieurs frappes et donc on ne sait pas pourquoi il y a ces frappes. Est-ce que les Russes sont d'accord avec ces frappes ou les tolèrent ? Ou au contraire, est-ce que sur ce plan-là, le régime de Bachar al-Assad leur échappe lorsqu'ils pratiquent ces frappes ? C'est une des questions qui est posée.
Sur le plan diplomatique, sur le plan des relations internationales, comment voyez-vous les choses évoluer ?
Je pense que le conflit syrien est de toute manière un conflit difficile à régler. Pour l'instant, le plus important étant de reprendre des négociations, mais je pense que ça sera de toute manière très difficile parce qu'on est quand même en présence d'un grand retour du régime de Bachar al-Assad sur la scène syrienne. Bon, il domine effectivement du fait de l'intervention de ses alliés, les Russes et l'Iran, qui dominent effectivement la scène syrienne. Les oppositions, de toute manière, sont extrêmement divisées. Et il y a par exemple cette opposition des groupes qui ont une position extrêmement hostile. Et donc, dans ces conditions, je crois que l'issue du conflit sera malgré tout difficile à trouver.
Jean Marcoux, professeur à l'Institut d'études politiques de Grenoble. Il est aussi ancien directeur de l'Observatoire de la vie politique turque à l'Institut français d'études anatoliennes à Istanbul.
En plus de nos programmes sur FM et ondes courtes, VOA Afrique est en votre compagnie 24 heures sur 24 sur Internet. VOAAfrique.com, tous les derniers développements sur l'actualité africaine et mondiale, reportages photos et vidéos, et vos commentaires sur VOAAfrique.com, à tout de suite.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique en direct de Washington. Voilà, c'est tout pour cette édition matinale. Merci de l'avoir suivi à la console Darrell Smith. Merci à Anne Albertson pour le suivi de l'actualité et la mise en onde. Un grand merci à toute la rédaction. Idrissa Sedoudia à Washington. Bonne journée à l'écoute de VOA Afrique.